Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas, et il viendra comme un voleur dans la nuit. Cette comparaison du Fils de l'homme, c'est-à-dire du Christ avec un voleur, est extrêmement curieux. Je vous avais dit déjà que Calvin s'était même emparé de cela pour essayer de se moquer des catholiques qui se prosternent ou qui adorent le pain de la communion. Ils disent que Jésus a dit qu'il était le pain de l'Eucharistie et ils se prosternent devant le pain. Eh bien, comme Jésus a dit que le Messie viendrait comme un voleur, eh bien, les voleurs devraient être aussi considérés comme des sacrements de la présence du Christ, et il faudrait se prosterner devant tous les voleurs que l'on rencontre dans la rue, puisqu'ils sont l'image que Jésus a choisie pour comparer le Fils de l'homme. Cela dit, cette idée de voleur est quand même pas très simple, parce que tout simplement, a priori, la venue du Fils de l'homme est une chose positive, alors qu'un voleur, ça n'est normalement pas très positif, c'est même plutôt désagréable et méchant. Alors pour se tirer d'affaire de cette complexité, il y a d'abord la solution simple, qui est la solution qu'on appelle millénariste, c'est-à-dire que quand on est dans le système de pensée qui considère que Jésus parle là de la fin des temps, c'est-à-dire de l'Apocalypse. À ce moment-là, il est évident que l'Apocalypse n'est pas tout à fait une bonne nouvelle, puisqu'il y a bien des destructions, des désordres, des désastres, des morts et des tas de choses effroyables. Et donc, si on se met dans le contexte d'une lecture millénariste de ce texte, alors tout devient simple. Et la plupart des gens qui aujourd'hui prêchent sur ce texte sont des évangéliques millénaristes. Et donc, effectivement, ils disent que quand le Fils de l'homme reviendra, ce moment de la parousie, eh bien, il va y avoir de grandes catastrophes et il faut se préparer pour ne pas être détruit par ce jour de l'Apocalypse, mais pour être sauvé par le Christ qui va nous prendre pour régner avec lui pendant 1000 ans et être sauvé, en effet, ensuite pour l'éternité. Mais je vous avais dit aussi la semaine dernière que cette interprétation me pose problème, tout simplement parce que ça fait quand même 2000 ans qu'un certain nombre de chrétiens attendent la fin du monde et le retour du Christ, et que cet événement n'a pas eu lieu. Comment donc peut-on penser que cela ferait 2000 ans que des gens lisent des textes qui ne les concernent pas, c'est-à-dire se préparent à un événement qui n'arrive finalement à peu près jamais? Comment penser que la Bible aurait écrit des versets qui ne concerneraient qu'une poignée d'êtres humains qui seront présents au moment de la fin du monde, et que cela ferait 2000 ans donc qu'on se prend la tête à attendre Jésus qui ne revient jamais? Cela me semble tout à fait incompréhensible. Maintenant, je pense donc que cette interprétation est fausse. Cela dit, le problème, c'est que les premiers chrétiens, évidemment, avaient interprété cela de cette manière-là. On le voit dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens croyaient à une apocalypse imminente. Ils pensaient que Jésus reviendrait tout de suite, dans les jours qui viennent, pour établir son royaume, et que donc il fallait être prêt à l'accueillir et à ne pas être détruit par ce moment apocalyptique. On voit dans les Actes des Apôtres les premiers chrétiens tout vendre et ne se mettre qu'à prier et à attendre le retour du Christ. Le problème, c'est que Jésus n'est pas venu. Ceux qui avaient tout vendu se sont retrouvés dans une misère épouvantable. Et finalement, à la fin de son ministère, Paul dit « Ne faites pas comme eux, parce que finalement, il faut s'organiser et ne pas simplement attendre le retour du Christ. » Que les premiers chrétiens se soient trompés, ça ne me dérange pas beaucoup. Mais la question que j'avais déjà posée, donc, c'était « Est-ce que Jésus lui-même se serait trompé au point de croire à une fin du monde imminente ? Est-ce que l'interprétation simple et millénariste de ce verset est applicable au Christ ? Autrement dit, est-ce que Jésus aurait pu se tromper sur la fin du monde, auquel cas la prédication même de Jésus serait en grande partie falsifiée ? Parce qu'il est évident que si la fin du monde devait être dans les jours ou les mois ou même les quelques années qui viennent, je n'organiserai pas ma vie de la même façon. Alors à ce moment-là, évidemment, je dirais à chacun, ne faites pas d'études, ça pour les jeunes, ne vous mariez pas, ne faites pas d'enfants, et contentez-vous de tout donner, de tout partager et de prier. Mais si ça n'est pas le cas, il faut s'organiser autrement. Est-ce que Jésus s'est trompé, autrement dit? Et est-ce qu'il faut dire que la seule interprétation de ce verset du voleur est l'interprétation apocalyptique, au sens premier du terme, le simpliste du terme, ou est-ce qu'on peut arriver à sauver la chose pour la lire autrement? C'est ce que, évidemment, je me propose de faire. Parce que j'ai du mal à... Bon, je ne suis pas forcément d'accord, prêt à dire qu'il faille... lire toute la Bible au pied de la lettre et croire tout ce que pense Paul et tous les apôtres et tout cela. J'ai une lecture un peu critique et je pense que effectivement les apôtres même ont pu déformer parfois les propos du Christ, mais quant à croire que Jésus ait pu bâtir sa prédication sur une attente falsifiée par les événements, j'ai du mal à aller jusque là. Et donc je crois qu'il faut chercher autre chose. Ou en tout cas, on peut croire qu'il faille trouver une autre solution et que Jésus n'était pas si naïf que ça. Pour ça, la solution, c'est de penser que cette histoire d'Apocalypse, qui est quand même annoncée hein, dans l'Évangile et ensuite à la fin du Nouveau Testament, ne concerne pas un événement historique du monde où il y aura un retour spectaculaire de Jésus avec des destructions historiques, mais est l'événement propre de chaque être humain qui reçoit dans son cœur la venue du Christ. Et à ce moment-là, ça bouleverse sa vie, autrement dit. Et quand on reçoit le Christ dans sa vie, ça élimine des tas de choses anciennes, des tas de scories de l'ancienne humanité, de peur, de crainte, de désir imbécile ou autre chose. Et donc ça met fin à l'ancien homme pour accueillir l'homme nouveau, qui est l'homme spirituel de la Jérusalem céleste. Autrement dit, je crois que le retour du Christ est quelque chose que chaque être humain doit expérimenter dans sa propre vie, et cela fait donc bien 2000 ans que tous les chrétiens lisent avec bonheur ces passages même de l'Apocalypse, où ne sont détruits que le mal, où est détruit la haine, la souffrance, le mal, la crainte, la terreur, l'indifférence, l'égoïsme. Tout cela est détruit, annihilé, pour pouvoir accueillir la réalité nouvelle d'un être renouvelé. Et donc c'est ça pour moi, ce retour du Christ, cette façon d'être capable d'accueillir quelque chose de neuf dans sa vie qui nous transforme. Autrement dit, cette nuit dans laquelle vient le Fils de l'homme, c'est la nuit du doute, la nuit de l'imbécilité, la nuit de l'égoïsme, et la venue du Christ est comme une illumination, c'est-à-dire la conversion en quelque sorte. Alors du coup, si on part de cette idée-là, ce qu'il dit, c'est que le Fils de l'homme viendra, donc dans notre nuit, en tout cas, a priori, au moment où on ne l'attend pas. Que ce soit comparé à un voleur qui vienne percer et dérober, pour l'instant, on peut simplement se mettre dans l'idée que le Fils de l'homme vient sans que l'on puisse prévoir le moment même où ça va se passer. Et autrement dit, le texte lui-même nous invite à être dans une attitude de veille. C'est-à-dire que on ne peut pas faire de sa vie une sorte de bunker en se disant je verrouille tout pour pouvoir dormir tranquille. Dans la vie, on n'est pas là pour dormir tranquille. Une fois où quelqu'un me disait « je ne vais peut-être pas faire ceci ou cela parce que je préfère me reposer », je lui ai dit avec une violence impardonnable « vous aurez tout le repos éternel pour vous reposer. Pour l'instant, vous êtes en vie, ne vous reposez pas. Ce n'est pas le moment de dormir. Vous dormirez après, vous avez l'éternité pour dormir. Pour l'instant, vous êtes en vie. Faites quelque chose, soyez vivant et donc veillez. Parce que si vous ne veillez pas, eh bien, le cours même du monde, le cours même de votre vie, va vous tomber dessus comme un voleur et risque de tout emporter. Et donc oui, il faut, je crois qu'il nous invite, quand il dit qu'il faut veiller, le Christ nous invite à avoir une vie de vigilance, c'est-à-dire une veille active, et que la vie du chrétien, c'est de toujours veiller, de regarder, de chercher à comprendre, de scruter le monde, d'essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui arrive dans sa vie, et surtout de s'adapter. C'est-à-dire que rien n'est jamais acquis. Et en effet, nous sommes invités à savoir anticiper, en quelque sorte, à se préparer, à penser à l'avenir, chercher à penser à tout, et non pas simplement à vivre au jour le jour en se disant « on verra bien ». Et je crois qu'effectivement, une grande partie de notre démarche spirituelle consiste justement à penser à la vie, à la mettre en perspective, à prendre du recul par rapport à sa vie et à essayer de comprendre à l'avance ce qui peut se passer. L'autre attitude, ce serait non pas de veiller, mais je vous le disais, de fermer les portes, de fermer les murailles, et puis d'essayer de s'endormir en pensant que l'on est bien protégé dans les remparts de ses certitudes. Et là, ce que nous dit le Christ, c'est que on ne peut pas s'enfermer dans les remparts de ses certitudes, parce que finalement, la réalité du monde elle-même viendra un jour faire choc dans ce que nous pensions être établi et va bouleverser toute chose. Mais nous devons donc non pas nous enfermer, mais au contraire veiller pour être prêts à accueillir la réalité comme elle est et faire affaire avec elle. On pourrait le penser aussi même doctrinalement, dirais-je, d'un point de vue dogmatique. Certains chrétiens auraient tendance à s'enfermer dans la doctrine, dans une dogmatique, c'est-à-dire en disant « moi je suis tranquille parce que j'ai une foi qui est bien établie, je sais en quoi je crois, j'ai un catéchisme finalement qui fonctionne et qui étaye ma vie ». Mais ça, c'est extrêmement dangereux d'essayer de s'enfermer dans le dogmatisme ou dans l'intégrisme, en quelque sorte. Parce que, bien souvent, il y a des événements qui viennent falsifier notre propre doctrine. C'est toujours le risque que, justement, notre foi, en quelque sorte, ne soit pas résistante à tout ce qui peut arriver dans notre vie. Il y a un risque de révélation du monde lui-même, un risque des événements qui mettent par terre notre foi ou ce que nous pensions comme acquis ou ce que nous avions appris au catéchisme. Et là, il est bien dommage que beaucoup de chrétiens finalement s'en tiennent à leur petit catéchisme de base et n'ont absolument pas envie qu'on le remette en cause. C'est vrai pour les individus, c'est vrai aussi pour la société elle-même. On dit en général que le XXe siècle a été une aventure extrêmement compliquée pour la foi chrétienne et que la foi, la façon d'envisager Dieu et l'humanité a considérablement évolué au cours du XXe siècle, en particulier à cause des deux grandes guerres de 14 et de 39-45. En effet, il y avait avant, au début du XXe siècle, la foi semblait établie sur un certain nombre de certitudes doctrinales, en pensant que l'homme était capable finalement d'avoir réponse à tout et savait très bien qui était Dieu. C'était ce qu'on appelle l'orthodoxie chrétienne, et donc il y avait une doctrine assurée dans laquelle il fallait croire, faute de quoi on n'était pas un bon chrétien. Ceux qui se disaient libéraux rejetaient l'orthodoxie, mais pensaient que par leur propre intelligence, par leur propre réflexion, ils pourraient élaborer une théorie sur Dieu qui serait plus vraie même que celle héritée. Enfin bref, il y avait auparavant une grande confiance dans l'homme, dans la pensée humaine, dans la raison même en quelque sorte, et dans l'histoire, dans ce que l'histoire nous avait transmis. Et puis il y a eu la guerre de 14, qui a montré que finalement cet homme que l'on croyait presque tout-puissant avec le développement des techniques, de la pensée et de toutes choses, que tout ce qu'était capable de faire cette humanité si brillante, c'était de s'entretuer dans une boucherie absolument insensée. Et à ce moment-là, se sont effondrés tous les espoirs qui reposaient sur la pensée humaine, sur la réflexion humaine, sur la psychologie, sur la philosophie, sur la sagesse, sur l'éducation, sur la morale. Tout a été volé, a volé en éclats, et la théologie s'est effondrée en disant « puisqu'on ne peut pas mettre sa confiance dans l'homme, on la met en Dieu seul ». Et puis voilà que la guerre de 40 arrive, et on se rend compte qu'on ne peut même pas croire en Dieu. Parce que, d'accord, la guerre de 14, c'est peut-être l'homme, mais en 40, comment Dieu, s'il existe, peut-il laisser le massacre d'Auschwitz et de la Shoah et de tous ces massacres effroyables? Et à ce moment-là, les gens se sont mis à douter de Dieu, et en disant, on ne peut même plus croire en Dieu. Et on en arrive ainsi à, effectivement, des gens qui aujourd'hui ne croient plus en rien, on ne croit plus en l'homme, on ne croit plus en Dieu, et on se trouve dans un vide terrible, à moins de reconstruire sa foi. Et justement, vous disais-je, on ne peut pas, il faut faire très attention de ne pas s'arrêter dans sa quête de foi, et de ne pas s'arrêter à une doctrine en se disant « j'ai suffisamment réfléchi, je sais en quoi je crois, et ça me convient ». Parce qu'il peut toujours arriver qu'un jour ou l'autre, il y ait un événement dans sa vie qui vienne faire voler cette foi en éclats. Et bien souvent, je m'élève contre cette pseudo-valeur de ce que l'on appelle la foi du charbonnier, de ceux qui disent « oh, vous savez, moi, monsieur le pasteur, je ne me pose pas trop de questions, j'ai la foi du charbonnier ». Parce que pastoralement, j'en ai vu des fois du charbonnier voler en éclats. J'en ai vu chez les enfants à qui l'on apprend qu'ils peuvent prier le bon Dieu et que leur bon Dieu leur donnera tout. Et quand les enfants découvrent que leur prière ne marche pas, combien d'enfants finalement perdent la foi en Dieu pour toute leur vie? Je l'ai vu chez des adultes qui, lorsqu'ils croyaient dans la bonté de Dieu, dans la toute-puissance de Dieu, soumis à une épreuve terrible comme la mort d'un enfant, tout à coup ne peuvent plus croire en Dieu parce que la mort de cet enfant, par exemple, fait voler en éclats leur foi, c'est-à-dire ce qu'ils croyaient établi. Et donc oui, on peut s'endormir sur sa foi et se dire « je suis bien tranquille, j'ai mon Dieu, j'ai mes trois petites idées sur la religion, tout va bien ». Mais un jour ou l'autre, il peut y avoir un événement qui vienne, comme un voleur, percer cette foi, tout dérober et tout enlever. Alors comment faire? Eh bien, il ne s'agit pas de construire sa foi comme un château fort, en se disant « je vais élaborer des murailles de plus en plus hautes pour qu'elles soient prêtes à résister à tout ». Mais ce que nous dit l'Évangile, c'est que nous devons sans cesse veiller, c'est-à-dire sans cesse être vigilants, et avoir une foi évolutive, en quelque sorte, et mouvante, capable de s'adapter à la réalité. Le seul moyen, c'est ça, c'est d'être toujours en veille, même doctrinalement, chercher, quêter, remettre en cause sa théorie, repenser, et le faire d'avance, je dirais. Sinon, la foi risque d'être balayée au moment où on en aurait le plus besoin. Autrement dit, au catéchisme, nous ne devons pas tant apprendre des doctrines comme il faut aux enfants, mais plutôt leur apprendre à réfléchir et à avoir une pensée modulable et une pensée vivante qui soit capable de s'adapter aux événements de leur propre vie et à ce qui va se passer. Ça, je le comprends à peu près, mais je n'ai pas pris de face quand même la difficulté du texte qui présente le Fils de l'homme comme un voleur. C'est-à-dire comme quelqu'un qui peut faire du dégât si on ne s'y prépare pas. J'ai même un peu triché sur le texte en disant que cette venue qui pouvait mettre en pièces finalement notre vie n'était pas vraiment le Fils de l'homme, mais le cours des événements de notre vie. Ça n'est peut-être pas faux parce que finalement le Christ est la vérité et ce qui arrive dans notre vie est aussi de l'ordre de la vérité du monde. Par conséquent, il n'y a pas de mensonge dans ce qui nous arrive. Mais c'est peut-être autre chose. Peut-être que l'on peut comprendre cette venue du Christ, non pas comme ces événements qui viennent mettre en cause notre vie, mais comme la découverte du Christ lui-même, c'est-à-dire comme la conversion, en quelque sorte. Alors, est-ce que la conversion peut faire du dégât dans une vie si on ne s'y prépare pas? Eh bien, peut-être. Peut-être, effectivement, que cela peut arriver et on en voit les effets, parfois dans des personnes autour de nous ou même au plus loin, c'est que parfois la découverte brutale de la transcendance, la découverte brutale d'une vérité absolue qui nous dépasse, peut chambouler une vie et la mettre sens dessus-dessous. La conversion brutale peut entraîner de grands désordres. On le voit ne serait-ce que dans ce qu'on appelle aujourd'hui la radicalisation. La plupart de ceux qui se radicalisent pour devenir finalement des terroristes ne sont pas des gens qui, depuis leur petite enfance, ont été des bons croyants engagés et qui finalement restent engagés. Ce sont des gens qui souvent ont eu une vie très éloignée de la spiritualité et tout à coup, ils découvrent, il y a le choc de la découverte de quelque chose de transcendant. Et cette transcendance dans leur vie met tout en désordre. C'est-à-dire que ça détruit, je dirais, leur propre structure personnelle. La radicalisation, c'est ça. Pas forcément chez les terroristes musulmans, hein, mais islamistes, mais même chez les chrétiens, c'est souvent des personnes qui découvrent brutalement une dimension divine qui finalement les brûle et les fait aller trop dans l'extrême. C'est même d'ailleurs pour cela que, dans une de ses épîtres, Paul, quand il parle des personnes que l'on doit choisir pour être responsable dans l'Église, dit qu'il ne soit pas un nouveau converti, parce que les nouveaux convertis, ce sont des gens extrêmement dangereux, parce qu'effectivement, leur propre personnalité risque d'être comme une maison qui a été percée et dérobée, c'est-à-dire que ça déstabilise la personne d'une façon qui n'est pas forcément positive. Et donc, c'est bien d'accueillir le Christ, mais le sentiment religieux doit être accueilli avec un préalable intelligent et structuré. Et c'est aussi, je crois, ce que nous essayons de faire dans les catéchismes. Justement, de préparer le terrain, finalement, de ces jeunes. Le catéchisme ne convertit pas les enfants que l'on nous confie. Mais peut-être qu'on essaye de faire en sorte que si un jour ils se convertissent, eh bien, cela ne mette pas tout en pièces dans leur vie, mais que cela puisse s'organiser d'une façon positive et créative. Ou alors on peut aller plus loin en disant que ce n'est pas simplement l'idée de se convertir à la foi, en quelque sorte, mais c'est à un moment donné dans sa vie d'être confronté à Dieu lui-même, c'est-à-dire à une instance de vérité et une instance de transcendance. C'est-à-dire que même en dehors de tout contexte religieux, il y a un moment donné dans sa vie où il y a le risque de se poser la question, tout à coup, de se dire « Mais que vaut ma vie par rapport à l'universel ? Que vaut ma vie par rapport au monde ? Que vaut ma vie par rapport à la transcendance ?» Et là, il y a le risque que notre vie semble rien du tout. C'est-à-dire que notre vie, tout à coup, soit percée, dérobée, comme l'absolu qui vient et qui nous réduit à néant. On ne peut pas toujours échapper à la question de la mise en perspective de sa propre vie par rapport à la notion d'absolu ou par rapport à l'idée d'une instance de jugement transcendante. Et en effet, Dieu ne doit pas être vu simplement comme une personne qui nous aime ou nous pardonne. Dieu, c'est aussi l'universel, c'est l'absolu, c'est le sens de la vie, c'est l'exigence infinie, c'est toutes ces questions fondamentales, finalement, vers lesquelles on peut un jour arriver. Et on peut vivre momentanément dans une sorte de torpeur, sans se poser ce genre de questions, en faisant son petit quotidien. Mais les questions, forcément, viennent un jour et risquent de tout emporter, sauf si on est prêt. Et donc, dirais-je, il faut sans cesse vivre comme si le Christ était présent, sans cesse vivre comme si Dieu devait venir, et peut-être sans cesse, autant que possible, se confronter à l'absolu, et ne pas vivre dans une sorte d'insouciance totale qui serait comme si nous ne serions jamais nous-mêmes confrontés à l'idée d'un critère absolu. Et puis la solution à cette difficulté, eh bien, elle est finalement assez pragmatique, et Jésus ne reste pas dans ces questionnements philosophiques un petit peu complexes dans lesquels je me suis complu. La solution, il la donne dans la deuxième partie de son texte. Il dit, écoutez, pas de panique, autrement dit. La question est assez simple. Vous n'avez qu'à donner à chacun sa ration de blé. Occupez-vous, en attendant, de nourrir les autres. Et, dit-il, au moment convenable. C'est-à-dire qu'au moment où il fait attention aux autres, il ne faut pas bourrer les autres de ce dont ils n'ont pas besoin, ni forcément de ce qu'ils demandent, mais d'essayer de trouver quel est le bon moment, le temps opportun pour faire des choses pour les autres. Et ça, c'est de gérer les biens de Dieu, de donner à manger aux serviteurs au temps convenable. Et ça, c'est finalement une façon assez simple de sortir de soi-même et justement de sortir de l'idée que l'on soit une simple forteresse menacée. Ce qui est terrible, c'est de voir sa maison, de voir sa vie comme une maison menacée de l'extérieur, par Dieu, par la foi, par le jugement, par la réussite, par la crainte de l'échec, par la crainte de ce que vous voulez. Mais justement, Jésus dit, arrêtez de monter des murailles autour de vous, mais allez vers les autres. Et si vous allez vers les autres, le voleur n'a plus rien à prendre. Parce que vous n'êtes pas dans l'idée d'essayer de conserver quelque chose pour vous, mais de le donner aux autres. Et je crois que se départir est le meilleur moyen de cesser d'être soi-même en danger ou menacé par ce dit voleur. Et c'est là, finalement, une attitude assez positive et assez raisonnable. Et puis, dans ce cas-là, la venue du Fils de l'homme n'est plus quelque chose qui vient me menacer, mais devient au contraire quelque chose qui peut m'aider et m'accompagner. Autrement dit, ce qui me menace, c'est tout ce qui n'est pas moi. Lorsque le Fils de l'homme, Jésus-Christ, la foi, l'exigence, Dieu, l'infini, vient et me menace, c'est que je me considère moi-même comme une sorte d'entité étanche, et à ce moment-là, tout ce qui n'est pas moi me menace. Au contraire, si j'ouvre, eh bien, il n'y a plus de menace. Autrement dit, le Fils de l'homme ne vient comme un voleur que pour celui qui le considère comme tel. Mais celui qui ouvre sa porte, le Fils de l'homme tout à coup n'est plus un voleur, mais il devient au contraire un compagnon qui vient vers vous. Combien de fois, lorsque, même c'est un petit geste très quotidien, on tend la main à quelqu'un ou à un enfant, on lui tend la main pour l'aider, et lui croit que c'est un geste hostile et va à ce moment-là se défendre. C'est-à-dire que c'est le regard qu'on a sur l'autre qui fait que l'on croit que l'autre est un voleur. Évidemment que le Fils de l'homme n'en est pas un. Mais si nous arrivons à ouvrir justement la porte plutôt que de la fermer, alors il n'y a plus de perçage ou de dérobage. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il dit un peu cela. Il dit en effet, « Repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et donc, ce qu'il dit, c'est ça. « Repens-toi, veille, sinon je viendrai comme un voleur. » Et donc, si je me repens et que je veille, le Fils de l'homme viendra, mais pas comme un voleur. Et juste après, dans la même Apocalypse, juste à côté, le Christ dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. » Et donc c'est cela, ce à quoi nous sommes invités, c'est non seulement d'avoir cette vision active et dynamique qui consiste à ne pas essayer de se renfermer contre l'extérieur, mais d'être toujours en capacité d'adapter, d'écouter, d'avancer, de veiller, et aussi cette ouverture aux autres qui fait que notre maison, cessant d'être une forteresse, devient non plus un lieu à défendre contre l'extérieur, mais devient au contraire un lieu où l'on peut partager avec une source de vie qu'est le Christ lui-même, ou qui est cette puissance même de vie qui est en Dieu, et de partager avec les autres qui viendront aussi banqueter et partager ce banquet de noces avec nous. N'ayez donc pas peur, veillez et priez, dit-il, car même dans la nuit, il y a ce Seigneur qui vient des noces pour vous inviter à la noce. Il ne vient rien dérober, ni rien percer, ni rien voler, mais simplement partager avec vous le pain qui donne la vie. Amen.